Bonjour, donc Daniel Lachance au micro de Canal M avec la deuxième partie de l'émission Les Voix de Service du mercredi 13 mars 2019. Et maintenant, Serge, de quoi allons-nous parler?
Les recettes du désir.
Ça, c'est votre premier article
pour
la
deuxième. Parce que la revue était de février, donc c'est en prévision du 14 février qui était la Saint-Valentin.
Donc ça, c'est au menu, vous allez parler des recettes du désir. Et deuxième, ça va?
Deuxième, ce sera, il y a un monsieur qui nous a quitté, un des têtes d'affiche de Télémétropole, Réal Giguère.
Oui.
Alors, dans le TV Hebdo, il y avait on parlait des différentes émissions qu'il avait faites. Je vais vous parler de ça.
J'espère que ça ressemble à une chronique nécrologique. Je vais parler aussi de quelqu'un, un musicien qui nous a quitté cette semaine. Et aussi, je vais vous parler d'un acteur qui a joué dans un film et qui est poursuivi aujourd'hui pour vol. On vous revient.
Ah oui?
Donc, Serge, on parle de recettes.
Oui, les recettes du désir. Alors, c'était dans la revue de Ça m'intéresse Histoire de janvier-février dernier, un article de Marion j'ai de la misère avec son nom, Guyon-Varc.
Bon.
De la table au lit, il n'y a parfois qu'un plat. Aha. Mais aphrodisiaques et aliments stimulants promettent de pimenter vos soirées. Les oreilles sensibles, peut-être, les natures sensibles, peut-être s'abstenir d'écouter
donc,
la chronique.
Cet article contient un langage qui pourrait offenser certains spectateurs.
Il y a beaucoup de recettes qui sont très... en tout cas, bon. Dans un verre, ça commence bien, dans un verre, versez 5 ml de jus de gingembre. Pressez une belle orange. Ajoutez 30 ml de vieux brandy, le double de brandy normal, 15 ml de Campari, et saupoudrez le tout d'une pincée de piment de Cayenne. Vous obtenez le cocktail Casanova.
Ah!
Et ça s'annonce, hein? Une recette de Salvatore Dali aux vertus aphrodisiaques. Si vous aviez eu la chance d'être invité à la table de Dali et à celle de sa muse adorée Gala dans les années 70, vos papilles auraient été sacrément émoustillées. Le peintre vous aurait aussi concocté une délicieuse purée d'Aphrodite, suivie d'un dessert au nom évocateur, les tétons de Vénus. Toutes ces recettes audacieuses, et une centaine d'autres, Dali les a compilées et illustrées dans un livre publié en 1973, intitulé, notez bien messieurs, « Dîner de gala », pour votre information. Mêlez nourriture et érotisme pour mieux passer de la table au lit. Si Dali excelle dans cet art, il n'a rien inventé. Dès l'Antiquité, on mise sur les épices pour émoustiller les sens. À Rome, pour ne pas faiblir durant les orgies romaines réputées, les hommes avalent des mixtures à base de clous de girofle. Au Moyen Âge, l'école de médecine de Salerne écrit dans ses traités que celui-ci accroît l'ardeur génésique s'il a été pris à la dose d'un drachme avec du lait de vache frais.
Bon.
Autre condiment, on va essayer ça ce soir tout le monde. Hein?
Ouais.
Autre condiment qui déchaîne les passions, la moutarde. Pline l'Ancien affirme qu'une femme froide et paresseuse peut devenir, avec quelques cuillerées de moutarde, une épouse idéale.
Une femme froide et paresseuse.
Ouais. Peut devenir une épouse idéale.
Mais qu'est-ce... On va se faire possible.
Mais c'est quoi la définition de l'épouse idéale?
Bon.
La liste des épices au pouvoir stimulant est longue, cannelle, gingembre, muscade. On les retrouve d'ailleurs dans la composition de la plupart des philtres d'amour du Moyen-Âge. Plus prosaïque, au 16e siècle, dans les années 1500, le médecin siennois Pierandrea Mattioli prescrit à ses patients qui ont des soucis d'érection, un petit badigeon d'huile de muscade sur le membre.
Sur le membre, directement.
Ouais. Mm. Les asperges déchaînent les passions. La forme équivoque de certains fruits et légumes fait qu'on les pare aussi de propriétés stimulantes. Dans l'Égypte antique, la laitue, associée au dieu de la fécondité, Mine, est très consommée en raison de la ressemblance de sa sève blanchâtre avec le sperme. Quant à l'asperge, Quant à l'asperge, dont la forme rappelle celle d'un pénis, elle déchaîne les passions.
Pas sûr, mais...
Au 16e siècle, Henri III en dévore des kilos avec ses mignons. C'est encore plus torride au temps de Louis XV, le monsieur qui se abreuvait de sang là, dans l'autre article dans le Fake News. Un libertin de la cour n'a rien trouvé de mieux que de faire déshabiller sa Vénus et en préparer une sauce pour ses asperges, l'avait placée dans un endroit, bon, là, je dirais pas le reste.
Bon.
Le chocolat excite les ardeurs revenues. À partir de la Renaissance, les produits... C'est drôle, vous me dites pas qu'il me reste une minute, là.
Que... Non, non,
parce
je voulais
que... continuer, hein? Intéressant. Hein? À partir de la Renaissance, les produits exotiques comme le chocolat, le café ou la vanille, venus du Nouveau Monde, deviennent des armes de séduction massive. Dans son traité des aliments, publié en 1702, le médecin Louis Leméry affirme que le chocolat excite les ardeurs de Vénus. Casanova est convaincu de
c'est
ses...
peut-être des fake news, ça.
Oui, ben c'est ça, oui. Casanova est convaincu de ses vertus aphrodisiaques et en boit avant chaque rendez-vous galant, raconte Serge Safran, dans L'amour gourmand, libertinage gastronomique au 18e siècle. Madame de Pompadour, la maîtresse de Louis XV, elle avale des tasses de cacao parfumé à l'ambre gris ou au jasmin pour combattre sa frigidité. En vain, car la gastronomie, aussi excitante soit la recette, n'atteint pas sa cible à tous les coups. Alors voilà.
Des recettes à retenir.
Les recettes
j'ai
à
pas
retenir,
tout écrit,
oui.
Là, mais...
Non. Mais je suis sûr que vous allez, après l'émission, vous allez m'accrocher, ah. Pour me demander. Hein, c'est ça, mais...
Donc, un article que j'ai trouvé dans lefigaro.fr qui a été publié le 12 mars. Hal Blaine, le batteur des Beach Boys et de Sinatra, décède à l'âge de 90 ans. Quand même, 90 ans, c'est un âge respectable.
Ben oui.
Après 60 ans de carrière, le rocker américain s'est éteint dimanche le 10 mars. Artiste de l'ombre, il avait joué et soutenu une grande partie de la scène pop et rock des années 1960, comme les Ronettes ou Simon & Garfunkel. Le batteur américain Hal Blaine, qui avait joué sur de nombreux morceaux de légende, est décédé lundi à l'âge de 90 ans. Puisse-t-il reposer à jamais sur les deuxième et quatrième temps de la mesure, a écrit sa famille dans un communiqué annonçant sa mort. Ça, c'est un petit inside gag de musicien, parce que le batteur doit accentuer toujours le deuxième temps et quatrième temps, surtout dans la musique rock. Originaire du Massachusetts, Harold Simon Belsky, de son vrai nom, s'était fait connaître dans les années 1960 en tant que membre du collectif californien de musiciens de studio The Wrecking Crew. Il avait accompagné de grands classiques de la pop, parmi lesquels Be My Baby des Ronettes, Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel, ou Strangers in the Night de Frank Sinatra.
Ah oui.
Très, très connu. J'ai de la difficulté, par exemple, à imaginer la batterie là-dedans. Il me semble qu'il était un rôle pas mal effacé.
Ouais.
La chanson est très connue, mais je pense pas
Stranger
que...
Strangers in the Night.
Oui, effectivement. Qui avait été traduite en français aussi.
C'est la chanson des amoureux. Je me rappelle, ma sœur, à l'époque, avait un copain, un cavalier, comme on disait à l'époque. Et c'était leur mélodie.
C'était leur chanson.
Ah, c'était leur chanson.
La plupart des couples ont une chanson.
Ouais.
Hein, mais ça, on n'a pas ça, donc, je ne sais pas. Je m'en trouve une. En 2000, Hal Blaine est introduit au Panthéon du rock'n'roll à Cleveland, en Ohio. En 2018, il reçoit un Grammy pour l'ensemble de sa carrière par l'Académie nationale des arts et des sciences. D'après le magazine spécialisé Modern Drummer, l'artiste américain a participé à l'enregistrement de plus de 6000 singles. Quand même, c'était un travail à plein temps. Là.
Pas mal, oui.
Entre 1963 et 1968, il a enregistré 4 albums instrumentaux en son nom. « Je suis tellement triste que je ne sais pas quoi dire », a tweeté Brian Wilson, leader des Beach Boys, dont Hal Blaine avait notamment rythmé le célèbre tube « Good Vibrations », qui était très connu. « Hal m'a beaucoup appris, nous lui devons une grande partie de notre succès. C'était le plus grand batteur de tous les temps », a ajouté Brian Wilson. « Bon voyage, cher ami », a pour sa part réagi Nancy Sinatra, qui l'avait accompagné sur « These boots are made for walking ». Ça aussi, c'est un succès très connu des années 60, qui avait été traduit en français « Ces bottes sont faites pour marcher ».
Ah, mais Jenny Rock.
«
Ces bottes sont faites pour marcher,
voilà.
Tu vas le regretter ».
Donc, c'est lui qui jouait de la batterie. « Tu as fait de notre monde un monde meilleur », a-t-elle ajouté. I love the colorful clothes she wears. She's already working on my brain. I only look in her eyes, but I picked up something I just can't explain.
I can feel how right she'd be for me. It's weird how she comes in so strong, and I wonder what she's picking up from me.
Une des nombreuses grandes pièces, des grands succès des Beach Boys, Good Vibration, la version qu'on vient d'entendre n'est cependant pas l'original enregistré par la formation dans les années 60, mais plutôt une version qui est sortie en 2004 sur l'album Smile de Brian Wilson, donc une version légèrement réorchestrée, mais qui ressemble oui. tout à fait au son des Beach Boys.
Très, très, très fidèle à l'inspiration originale, j'imagine. Donc, Serge, on va parler d'une de nos anciennes vedettes au Québec, un nom très connu.
Oui, Réal Giguère. Ben, nous, ça nous dit quelque chose. Jean-Sébastien, vous êtes plus jeune que nous. Ça vous dit quelque chose, Réal Giguère?
Mais les souvenirs de Réal Giguère que j'ai, je ne sais pas si je fais fausse route, mais il me semble qu'il a animé la version francophone de Géopardy
oui,
sur
oui,
Télé-Métropole.
Oui, oui,
c'est à ça que ça se résume, mes souvenirs. OK.
Alors, dans le TV Hebdo, il y a deux semaines, là, Annie Hogg a écrit un article, « Les 10 projets de Réal Giguère ». Alors, le 11 février, le Québec a fait ses adieux à Réal Giguère. Celui qu'on surnommait Monsieur Canal 10. Parce qu'à l'époque, c'était pas Télémétropole, TVA, c'était le Canal 10.
Canal 10, CFTM.
Oui, et Radio-Canada était le Canal 2. C'était avant
oui.
le câble, ça.
Oui.
Donc, M. Giguère était et sera toujours une figure marquante du petit écran. On se souviendra de lui comme d'un animateur et d'un auteur de séries populaires dans les années 1970 et 1980. Voici 10 projets auxquels son nom est associé. Vous me direz si ça vous rappelle quelque chose.
Peut-être, ouais.
L'émission 10 sur 10 de 1961-1969. Moi, ça me dit rien.
Le titre me dit rien, non? C'était un quiz télévisé, quoi? Ouais.
Animé par Réal Giguère et Jean Duceppe. Jean Duceppe. « 10 sur 10 » est le premier talk show présenté à... Je me rappelle. Présenté à Télémétropole. Ma grand-mère regardait ça. Elle était très, très fan de ça. Cette émission populaire comprend des entrevues et des numéros de variété. Elle permet notamment aux téléspectateurs de découvrir de nouveaux talents, entre autres. Ensuite, on va en 1967-1968, « Le coq et fils ».
Le nom m'a dit quelque chose, mais je me souviens pas. Je pense pas que j'ai regardé
ça. C'était une comédie écrite par Réal Giguère. J'ai commencé à écrire à ce moment-là. Bernard Sicotte, qui raconte les aventures d'Aristide Lecoq, Paul Desmarteaux, le curé Labelle dans, dans la première version des Belles Histoires des Pays d'en haut, et de son fils Roméo, qui était joué par Gilles Latulippe. Ensuite, Amour, délices et compagnie en 1969. L'action de ce téléroman se déroule dans le milieu de l'aviation. Amour, délices et compagnie, des aventures et des relations amoureuses des pilotes et des hôtesses de l'air. Serge Laprade jouait dans ça. Monsieur Laprade.
Ça, c'était avant.
Ça me dit rien. Ben, ça a duré un an. Madame est servie.
Ça aussi, c'est drôle. Ben, c'est tous des titres qui me disent quelque chose. Mais que
là, on est rendu en 1969-74, donc ça se...
C'est un genre de talk show, ça aussi, je pense.
Oui, Réal Giguère anime Madame est servie en compagnie de Claude Blanchard, une autre tête d'affiche de Télémétropole. Ces deux vedettes chéries du public connaissent beaucoup de succès avec ce magazine d'actualité. Parle, parle, jazz, jazz.
Oui, ça, c'était vraiment le talk show de fin
avec,
de soirée.
La première saison a été avec Jeannette Bertrand et Jean Lajeunesse, et Réal Giguère a pris la relève avec Suzanne Lapointe.
Ah oui, ça, je me souviens, oui.
Ensuite, Galaxie, 1983-89. Réal Giguère est à la barre de ce jeu questionnaire dans lequel deux concurrents reçoivent l'aide de 5 personnalités pour répondre à des questions de toutes sortes. Jeopardy, 1991-93. Donc, c'est rendu, on approche. Il anime la version québécoise de ce jeu questionnaire américain créé par Merv Griffin. Trois participants s'affrontent dans cette émission où on leur donne la réponse et ils doivent ensuite trouver la question. Ensuite, Dominique, en 1977-79, on revient un peu en arrière, avec Dominique Michel. Métro Boulot Dodo, 1982-83, avec encore Dominique Michel. Et le dernier, ce serait L'Heure du Temps, 1985-1993. Ouais. Dans L'Heure du Temps, Réal Giguère nous plonge dans l'univers d'une richissime famille. Jean Coutu et sa fille Angèle incarnent Philippe et Sophie Debré, qui dirigent l'entreprise familiale.
Un article que j'ai trouvé sur le site musique.urbania.ca. Ça a attiré mon attention parce que c'est un film que j'ai vu il y a plusieurs années et je me souvenais de ce petit gars-là, ce petit guitariste-là. L'enfant guitariste de School of Rock arrêté à 4 reprises pour vol de guitare. C'est pas drôle, hein? Je ris, mais c'est pas drôle. On devrait pas rire de ça. En 2003, sortait le film culte School of Rock, introduisant au passage une génération de jeunes au rock et à Jack Black. Vous connaissez l'acteur Jack Black? Il fait des comédies.
Non.
Je me souviens en tout cas surtout particulièrement de ce film-là. Beaucoup d'entre vous se souviendront de ce film racontant l'histoire d'une semi-rockstar déchue qui se retrouve à enseigner la musique à une classe d'enfants, la transformant en groupe de rock. Puis je me souviens que l'intrigue aussi de ce film-là, c'est que c'était pas du tout un prof. Il s'est ramassé à remplacer un prof, mais illégalement, disons, clandestinement. On se souviendra également du personnage de Zach Attack, jeune guitariste qui s'émancipait tranquillement au long du récit avant de totalement s'assumer comme un rockstar. Eh bien, on a eu des nouvelles de Joey Gaydos Jr., l'acteur qui l'incarnait, puisqu'on a appris qu'il faisait face à plusieurs chefs d'accusation pour avoir volé des guitares à 4 reprises. Son stratagème était simple.
Une obsession.
Oui. Son stratagème était simple. Dans un magasin de musique, il demandait à essayer une guitare avant de se sauver avec et d'aller la vendre dans un pawn shop. Quand même. Mm. Faut être quand même assez audacieux. Mm-hmm. Sachez d'ailleurs que dans la catégorie « Wow, ça fait de grosses journées », on doit également ajouter à la liste d'objets dérobés un ampli. Ils ne disent pas quel modèle, quelle grosseur, mais sortir d'un magasin de musique avec un ampli de guitare, quand même,
pesants,
faut le faire. Ouais. Donc, il était vraiment décidé. Il aurait également répété le processus 4 fois en seulement 5 semaines avant de se faire finalement arrêter par la police. Blague à part, semblerait que l'acteur a admis à la police avoir commis ses vols pour s'acheter de la drogue et combler sa dépendance. Donc, c'est sûr que pour lui, si déjà c'est un guitariste, ça fait plus crédible entrer dans un magasin, essayer une guitare, puis quand personne regarde, il se pousse avec. Donc, on lui souhaite donc de se remettre sur le droit chemin rapidement. Joey, s'il te plaît, un peu moins de drogue, mais plus de sexe et de rock'n'roll.
Sans répit, grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Echras, ischoras, ischomanaga managaras. Echras, ischoras, ischomanaga managaras. Jouez, Digane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? Ah, t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain et encore plus après-demain. Echras, ischoras, ischomanaga managaras. Echras, ischoras, ischomanaga managaras. Je veux rire, veux chanter et saouler ma peine pour oublier le passé qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez-moi encore pour que je m'enivre. La la eh, raz ischoras, ischomanaga managaras. Raz ischoras, ischomanaga managaras. Deux guitares en ma pensée jettent un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain et encore plus après-demain. La 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 eh, la 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 la. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, vous verrez mon corps rouler sous la table. Alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. Mais en attendant, jouez, jouez, je leur donne.
C'était assez facile de s'imaginer quelqu'un se sauver d'un magasin de musique avec cet air effréné. Charles Aznavour qui nous interprétait les deux guitares.
Les deux guitares. Donc, on va la faire jouer 2 fois parce qu'il y en a volé 4. Donc, Serge, on continue avec.
Oui, des petites brèves. Mm-hmm. Je vous donne le choix. que mâchait-on avant le chewing-gum? Ou bien, quels étaient les ingrédients des premières pâtes dentifrice? Choisissez.
Le dentifrice, ça m'intrigue un peu.
D'accord. Des recettes de pâtes dentifrice composées de poudre de datte, de terre et de miel ont été trouvées dans le papyrus Ebers, datant de l'Égypte antique de 1600 avant Jésus-Christ. Entre 300 et 500 avant Jésus-Christ, les Égyptiens utilisaient une pâte de cendre, de coquilles d'œufs broyés, de myrrhe, de feuilles de menthe ou de fleurs. Ils s'en frottaient les dents avec les doigts. Le premier dentifrice à texture lisse, à base de craie et de savon à la menthe, apparut dans les années 1850 et le fluorure en 1890.
Quand même, c'est
ouais,
un bout de
ouais,
temps.
Ouais. Le chewing-gum?
Chewing-gum, oui.
En fait, non. La gomme à mâcher, fabriquée de latex du sapotillier et de parfum de réglisse, fut inventée par William Finley Semple en 1869 pour nettoyer les dents. Et en 1872, elle fut commercialisée comme friandise à base de sirop par l'Américain Thomas Adams. Pourtant, mâcher ne date pas d'hier. Sachez qu'au temps de la préhistoire, les hommes des cavernes aimaient mâcher de la sève de conifères.
Comment on peut savoir ça? Hein? ça m'impressionne.
Ce qu'ils trouvent sur les squelettes, ouais, sur ouais. Les dents, là, les crânes. Plus tard, les Asiatiques ont opté plus pour du bétel et les Amérindiens pour du tabac.
Oui, bien ça, on se souvient de la chic ouais, de tabac. Ça prenait un crachoir à côté. Mm-hmm. C'est pas très appétissant.
Ça noircissait les dents, je pense. Wow. Beaucoup, beaucoup,
donc,
beaucoup.
Donc, on a inventé après ça la pâte dentifrice. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. C'est mercredi 13 mars 2019. On vous revient la semaine prochaine avec... Mais je pense que vous
serez... Je ne serai pas là pour quelques semaines.
Donc, oui. On espère que Isabelle, notre collègue, sera de retour avec nous.
Sûrement.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Liberté à la mise en onde. Merci Serge. On vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Les voies de service, mercredi le 13 mars 2019. Bonjour tout le monde, bonjour Serge, bonjour Jean-Sébastien, on est nombreux aujourd'hui.
Oui.
Notre collègue Isabelle Falardeau n'est pas avec nous aujourd'hui. Bonne journée Isabelle.
Oui.
Donc, aujourd'hui, c'est mercredi 13 mars, un beau mercredi quand même, une belle journée,
ouais,
presque printemps,
ben
presque
oui.
Printemps, on peut espérer un peu dans une semaine en principe.
Ah!
Donc Serge, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez nous lire?
D'après vous, les fake news, est-ce que c'est un phénomène qui a commencé avec M. Trump ou...
Non, je dirais que lui, il a peut-être rendu l'expression célèbre, mais les fake news depuis que j'ai commencé à lire, je pense que ça existait déjà.
Et bien avant ça, 2500 ans.
Ah oui? Ouais. Il y avait déjà des fake news à l'époque.
Il y en a toujours.
OK, le terme n'existe pas.
Depuis que le monde est monde.
Probablement.
Puis ensuite, je vais vous parler de le Concorde, la naissance du Concorde.
Oui.
En 1969.
OK, eh bien moi, je vais vous parler le décès d'une chauffeuse de taxi célèbre, je vous dirai pourquoi elle a été célèbre. Et aussi, je vais probablement vous parler d'une grande chanteuse dont on a célébré un petit peu les succès dernièrement à Montréal. Donc, on parle de fake news. Est-ce que c'est un vrai article que vous allez nous lire? Un fake article?
Ah, c'est un vrai article,
bon.
Oui. C'est dans la revue Ça m'intéresse, histoire de janvier 2019, intitulé 2500 ans de fake news, un article de Manuela France. En titre, elle dit « La déesse romaine Fama possède deux trompettes. L'une pour la renommée, et l'autre pour les ragots. » Mm-hmm. Ah, déjà, voyez, à
l'adolescence
romaine, ça va loin. Hein? Socrate pervertit les jeunes d'Athènes. Louis XV prend des bains de sang humain. Les balles des Boches, les Allemands, ne tuent pas les poilus lors de la Première Guerre mondiale. On n'a pas attendu Twitter pour être submergé de fausses nouvelles. Aujourd'hui, s'il est un champion dans l'art de diffuser les fausses informations, c'est bien...
Un certain président?
Donald Trump, voilà, vous avez gagné. Le président américain n'a pas son pareil pour inonder les réseaux sociaux de fake news, fausses nouvelles en anglais, via son compte Twitter. Au 30 octobre dernier, le Washington Post le créditait de 6420 contre-vérités, affirmations trompeuses et exagérations en 649 jours d'exercice.
C'est quand même impressionnant.
Ouais, sois prêt.
Le pire, c'est que la plupart du temps, ce qu'on l'entend dire, c'est que lui dit que les autres publient des fake news. Ouais. C'est quand même assez impressionnant aussi.
Sois prêt de 10 par jour en moyenne.
C'est bon.
Je me demande, est-ce qu'il a le temps de gouverner, coudonc?
Je ne sais pas, mais il va se remettre dans le livre des Guinness.
Oui. Mais le mensonge de masse n'est pas l'apanage du locataire de la Maison-Blanche et la France, elle, n'est pas épargnée. Ainsi, pendant la présidentielle de 2017, le candidat Macron voulait établir la charia à Mayotte, tandis que Mélenchon portait une montre Rolex à 18 000 euros. Des mensonges, mais qui ont été largement repris. Le CNRS a repéré 179 fausses nouvelles relayées par une sélection de 2,4 millions de comptes Twitter pendant la campagne. La fausse nouvelle est le miroir de la conscience collective, note Marc Bloch en 1921 dans « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre ».
C'est pas rassurant.
Ouais. Il ajoute « Une fausse nouvelle naît de représentations collectives qui préexistent à sa naissance. Sa mise en branle n'a lieu que parce que des imaginations sont déjà préparées et fermentent sourdement.
Mm-hmm. »
Dans les époques troublées par les conflits, les épidémies ou les crises, la fake news désigne un bouc émissaire, elle libère les passions, parfois elle fait même basculer l'histoire et ça fait 2500 ans que ça dure. Allons à Athènes en 399 avant Jésus-Christ. Socrate est emprisonné sur simple accusation du poète Mélétos. Le philosophe doit répondre devant le tribunal des charges de corruption de la jeunesse et d'impiété. Condamné à mort, il meurt à 70 ans en buvant de la cigue, un poison.
Mmh.
Son seul crime, avoir été un agitateur d'idées. Le venin de la calomnie vient une fois encore de frapper à Athènes. Dans la démocratie naissante, tout le monde a droit à la parole et la diffamation est un sport national. Le tribunal populaire, l'Élié, repose sur des citoyens tirés au sort et que l'on incite à dénoncer les crimes et délits de leurs concitoyens, qui peuvent être imaginaires ou... une méthode qui se répète aussi. 6 siècles plus tard, le 5 février 2003, à l'ONU, le secrétaire d'État américain Colin Powell lance au monde entier, il ne fait aucun doute que Saddam Hussein a des armes biologiques,
oui, on se souvient,
et qu'il a la capacité d'en produire rapidement d'autres en nombre suffisant pour tuer des centaines de milliers de personnes. Une théorie fausse, récupérée par l'administration américaine et qui servira de prétexte à l'invasion de l'Irak en mars 2003. Louis XV, le roi de France, fait tuer des enfants pour prendre des bains de sang. Au printemps 1750, la peur règne à Paris. Les arrestations arbitraires d'enfants par la police se multiplient. Une rumeur court les rues. Les autorités les capturent pour les vider de leur sang et les offrir au roi. En 1914, celle-là, elle est assez incroyable. Les balles des Allemands blessent, mais ne tuent pas.
Mm-hmm.
Bon, les Russes encerclent Berlin. On se remarque,
c'est des fake news.
En 1914, ouais. Les Russes encerclent Berlin. C'est ce que l'on peut lire dans les principaux journaux français en septembre 1914. Or, c'est faux. Les alliés russes sont en train de mettre l'Allemagne à terre, dit-on, mais en vérité, ils sont en déroute à Tannenberg, en Pologne. Mais à l'approche d'une bataille décisive dans la Marne.
J'avais bien compris.
Il ne faut pas casser le moral des poilus. Toujours plus fort dans le mensonge, le 17 août 1914, dans le journal L'Intransigeant, on peut lire que les blessures causées par les balles allemandes ne sont pas dangereuses. elle, je cite, traverse les chairs de part en part sans faire aucune déchirure.
Hey, c'est bon. Magique.
Oui. Difficile à avaler? Ben, on croit aisément ce que l'on a besoin de croire, rappelle l'historien Marc Bloch dans ses écrits de guerre 1914-1918. Et mentir et hontément pour assurer les foules, c'est utilisé en 1986, juste après la catastrophe de Tchernobyl. Les autorités françaises du nucléaire tentent de minimiser l'incident. Le nuage radioactif serait stoppé à nos frontières à la faveur de conditions climatiques favorables. Dans le TJ de Antenne 2 du 30 avril, pendant le bulletin météo, le téléspectateur découvre une carte de France dont la frontière orientale est ornée d'un énorme panneau « Stop ».
Ah, OK.
On avait arrêté.
C'est
là.
Comme le mur de Donald
ouais,
Trump.
Oui, absolument.
Bon, donc, je vais vous parler de... C'est un article que j'ai trouvé sur le site lefigaro.fr qui a été publié le 7 mars. Mort de la femme chauffeur qui inspira Joe le Taxi, le premier tube de Vanessa Paradis. Vous vous souvenez, dans les années 80, la jeune Vanessa Paradis, c'était son premier vidéoclip. Ouais. Maria José Leao dos Santos, figure des nuits parisiennes et chauffeur de taxi, est décédée à l'âge de 64 ans. Sa personnalité haute en couleur donna l'idée à Étienne Roda-Gil d'écrire une chanson et de l'offrir à Vanessa Paradis, une jeune débutante de 14 ans. Elle avait seulement 14 ans à l'époque. Je me souviens sur le vidéoclip, elle avait l'air très jeune, mais 14 ans, je ne me doutais pas. Le 45 tours se vendra en 1987 à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Je ne sais pas si l'histoire ne dit pas si la chauffeuse de taxi a eu
des royautés.
Elle a seulement inspiré. Les chansons ont souvent une histoire secrète. Joe le taxi, le premier succès de Vanessa Paradis, a été inspiré au grand parolier, dont j'ai nommé le nom tantôt, Étienne, le temps d'une course dans Paris. Par la personnalité haute en couleur d'une femme chauffeur qui, dans la tradition des taxis de Paname, aimait à converser avec ses clients. Cette muse iconoclaste, cette vraie Jo qui connaissait toutes les rues par cœur, comme dans la chanson, tous les petits bars et le rhum au mambo, la bien nommée Maria José Leao dos Santos vient de nous quitter à l'âge de 64 ans. L'inspiratrice de Joe le Taxi était une vraie figure des nuits de la capitale. D'origine portugaise, elle s'était réfugiée en France au début des années 1970 pour fuir la dictature de Salazar. Après quelques petits boulots, elle trouve sa voie. Devenir une taxi-driveuse, je ne sais pas si les Français disent « driveuse » ou...
Bon, « taxi-driveuse ».
Une conductrice, une chauffeuse ici, bon. La française. Très vite, elle fait les nuits, comme l'on dit dans le jargon des chauffeurs. De discothèque branchée en club lesbien, sa spécialité. Elle fait découvrir... Je ne sais pas si c'est une fake news, ça, là. C'est juste écrit comme ça, je fais seulement lire. Donc, des discothèques branchées en club lesbien, elle fait découvrir à ses clients les adresses interdites de Paris. Étourdie par son verbe haut, sa faconde, sa débrouillardise, le noctambule, le paumé du petit matin, est assurée de passer une nuit inoubliable dans la ville lumière. Elle rencontrera Étienne Roda-Gil lors de ses déambulations nocturnes. Marie-Josée lui parle de sa vie, en long, en large, en travers. Une authentique destinée à la Simenon. Les malheurs et les bonheurs s'entremêlent. Le parolier comprend aussitôt qu'il tient là le sujet d'une chanson. Dans le fond, l'inspiration, on peut la trouver n'importe où. Hein? Il s'agit d'être attentif, j'imagine.
Observer.
Observer beaucoup. En réglant sa course, il lui pose une dernière question. « Ça ne te dérange pas si j'écris une chanson de ta vie? » Jamais, Marie-Josée lui répondra non. Joe le Taxi venait de naître. La suite, on la connaît. Vanessa Paradis, tout juste 14 ans en 1987, deviendra du jour au lendemain une des stars de la chanson française. Et une actrice aussi, plus tard. Je pense qu'elle fait beaucoup plus de cinéma que de chansons à l'heure actuelle. Donc, plus de 3 millions de disques vendus dans le monde. Joe le Taxi est un phénomène de société. Les vers de Roda-Gil jazz encore dans nos têtes. Dans sa caisse, la musique à Joe résonne. C'est la rumba, le vieux rock au mambo au bidon. Vas-y, Joe, vas-y, fonce dans la nuit. Donc, on va, je pense qu'on l'a ici, on va écouter Joe le Taxi pour se remettre en mémoire un peu cette chanson de Vanessa Paradis.
Bienvenue, c'est Joe.
Donc Serge, on revient avec le Concorde.
Le Concorde, un article paru dans le Point de vue, la revue Point de vue de la semaine dernière. Le 2 mars 1969, Concorde vole. Après des années d'attente, le célèbre avion supersonique franco-britannique effectue enfin son vol inaugural dans le ciel du Midi, une étape historique pour la conquête du ciel. C'est un article d'Isabelle Pia. En ce 2 mars nuageux, une foule attend depuis le matin à l'aéroport de Toulouse-Blagnac et dans le champ alentour l'événement que retarde depuis 2 jours le brouillard. Des centaines de journalistes sont venus du monde entier pour l'immortaliser. Dans la tribune officielle, aménagée dans une ancienne fermette en bordure de piste, des gloires de l'aviation civile ont pris place, dont Jacqueline Auriol, l'aviatrice française. Après une première tentative avortée dans la matinée à cause du plafond nuageux, l'équipage monte de nouveau à bord en début d'après-midi, malgré les rafales de vent d'autant. Il se comporte de 4 hommes, Jacques Guignard, copilote, Henri Perrier, ingénieur navigant, Michel Rétif, mécanicien navigant, et André Turcatte, pilote. Polytechnicien, détenteur de 2 records chez Nord Aviation, sur Gerfaut et Griffon. Ce dernier a rejoint en 1962 la compagnie Sud Aviation pour prendre la direction des essais en vol du futur avion supersonique. L'histoire a commencé près de 7 ans plus tôt, le 29 novembre 1962. Ce jour-là, le gouvernement français et britannique signe un accord de coopération bilatérale pour la construction du premier avion de transport supersonique baptisé Concorde par le général de Gaulle, avec un E à la française, parce que sinon ça aurait donné Concorde. Les Britanniques de BAC, British Aircraft Corporation, se voient confier les parties avant, dont le poste de pilotage, et arrière du fuselage, les nacelles et entrées d'air des réacteurs, les dérives et les gouvernes. Sud Aviation, la compagnie française, doit réaliser la partie centrale du fuselage, les ailes et le train d'atterrissage. Tout va bien pour Concorde jusqu'en 1973. Les commandes affluent, tout ça. Cette année-là, conséquence de la crise pétrolière, toutes les commandes du supersonique, 4 fois plus gourmand en kérosène qu'un Boeing 747, sont annulées. Tous les efforts déployés pour promouvoir à l'étranger les prouesses technologiques de Concorde, commandes de vol électrique, nez inclinable, frein carbone permettant un atterrissage à 280 km/h, système de transfert de carburant modifiant le centre de gravité, etc., se trouvent réduits à néant. Le président Pompidou, la reine Élisabeth II et son époux, le duc d'Édimbourg, qui a piloté lui-même un prototype en 1972, avaient pourtant été des ambassadeurs très motivés des deux côtés de la Manche. Seuls verront le jour les commandes de British Airways et Air France, qui s'élèveront à 16 appareils seulement.
C'est quand même pas beaucoup.
Ouais. Hein. Le 21 janvier 1976, enfin, décollent simultanément les premiers avions des deux compagnies à destination de Bahreïn, dans les Émirats arabes unis, pour la British Airways, et de Rio de Janeiro pour Air France. Certains des 100 passagers français ont réservé leur place dès 1968 pour avoir le privilège d'être le premier à passer match 1 au-dessus de Nantes. Ma match 1, c'est la vitesse supersonique. De découvrir les deux cabines dessinées par Raymond Lawley, star du design industriel, les hôtesses habillées par Jean Patou, et les menus concoctés par de grands chefs accompagnés de vins sélectionnés par les meilleurs sommeliers. Le nouveau millénaire, pourtant, sera fatal à Concorde. Le 25 juillet 2000, à Gonesse, il connaît son premier et dernier accident. C'est le seul accident qu'a eu le Concorde.
À cause de l'éclatement d'un pneu, je pense.
Provoqué par un débris sur la piste, une coupure dans un pneu entraîne la perforation d'un réservoir sous le choc d'un gros morceau de caoutchouc. L'avion s'embrase en vol, tuant les 113 personnes, passagers et membres d'équipage. Ce drame contribue à écorner l'image de Concorde, victime par ailleurs de la nuisance sonore du bang supersonique, de son impact sur l'environnement, ainsi que de ses coûts d'exploitation trop élevés et de ses problèmes de maintenance. Le 10 avril 2003, Air France et British Airways annoncent le retrait de leur appareil. 15 000 personnes assistent émues à l'ultime atterrissage du New York-Paris sur le tarmac de Roissy le 31 mai 2003. Le Concorde, petite note personnelle, le Concorde était passé à Montréal. Il avait remonté le Saint-Laurent à basse altitude et il est passé devant Radio-Canada et on a pu le voir, tous les gens le long du Saint-Laurent le voyaient, c'était magnifique. Hein. Il était gracieux comme appareil. Là.
C'était quand même assez impressionnant de voir.
C'était quelque chose
de J'avais voir. Vu seulement ce film. Je ne sais pas s'il y avait une classe économique dans le Concorde. Je ne pense pas. Hein. Je pense que les billets
Je pense que non, ah, non, 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 ça ne doit pas, non.
J'étais Première assez, classe, mur à mur.
Oui, oui. Mais oui.
Je vais vous parler maintenant de Carole King. Connaissez-vous Carole King?
Mm-hmm.
Justement, je vais vous en parler un peu plus. Vous allez savoir un peu plus c'est qui. Ça a attiré mon attention parce que dernièrement, à la salle Wilfrid Pelletier, du 12 au 17 février, il y avait un spectacle hommage à Carole King qui s'appelait Beautiful, The Carole King Musical. Puis je me suis dit, il me semble qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui savent en fait qui est Carole King. Et c'est un article que j'ai trouvé sur le site de ici, radiocanada.ca, qui a été publié le 12 février et qui avait pour titre « Voici pourquoi vous connaissez Carole King sans le savoir ». Vous vous demandez pourquoi aller voir en 2019 un spectacle musical portant sur Carole King, l'auteur, compositrice, interprète de Tapestry, l'album qui date de 1971. Peut-être bien parce que vous connaissez bien plus que vous ne le pensez le répertoire de titres légendaires qu'elle a composé avec son mari à l'époque, Jerry Goffin. Que ce soit pour la pop, le rock, le rhythm and blues ou le soul, King et Goffin ont laissé leur marque sur la musique populaire des années 1960 en écrivant des succès à la pelletée, à commencer par un trio de chansons numéro 1. Rien ne leur résistait. Même Aretha Franklin et les Beatles ont chanté du King et Goffin. Quand même, c'est un détail que plein de monde a oublié peut-être. Un jour, parti visiter ses parents, Carole King laisse à la maison la partition d'une mélodie indémodable, celle de « Will You Love Me Tomorrow » en 1960, dont Goffin écrira les paroles en un quart d'heure en revenant de sa soirée de quilles. Offerte au groupe de Shirelles, cette chanson deviendra le tout premier numéro 1 pour une pièce interprétée par un groupe de femmes noires aux États-Unis. Ce succès permettra à la fois à King et à Goffin de laisser tomber leur boulot de jours respectifs pour vivre exclusivement de leur plume. Il y a eu aussi « Take Good Care of My Baby », interprété par Bobby V, qui compte parmi les artistes ayant eu droit à au moins une demi-douzaine de compositions du duo King-Goffin. Du nombre, cette pièce a été le plus gros succès. Elle a d'ailleurs été reprise au Québec en français par un certain Pierre Lalonde. Aime-la comme je l'aime. Oui. Je me souviens pas de cette chanson-là, mais bon. D'abord écrite pour Dee Sharp, qui la refuse, la chanson « The Locomotion » a finalement été enregistrée par Little Eva en 1962. Et ça, c'est très connu, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Mm-hmm. Enregistrée par The Everly Brothers, mais jamais mise en marché, « Chains », qui a été publié en 1962, a été un bon petit succès pour un groupe qu'on a oublié, je ne connaissais pas, « The Cookies », le groupe de choristes de Little Eva. Cela dit, c'est plutôt quand les Beatles ont enregistré la chanson pour leur premier album britannique, qui s'intitulait « Please, Please Me » en 1963, que le chèque de droits d'auteur de King et Goffin a dû sensiblement gonfler. On a tendance souvent à oublier ça, mais dans les premiers articles, les premiers albums, pardon, des Beatles, il y avait souvent des reprises comme ça. C'était pas seulement les chansons de Lennon McCartney. Compositrice émérite de mélodies fabuleuses et d'arrangements somptueux, Carole King a également obtenu une reconnaissance mondiale de plein droit en tant qu'auteur-compositrice-interprète au début des années 1970 avec les succès de son album Tapestry, vendu à plus de 25 millions d'exemplaires à ce jour. C'est quand même pas mal. Carole King a déjà dit que l'inspiration de You've Got a Friend, qui est probablement sa chanson la plus connue, était venue d'une réaction à une phrase de Fire and Rain de James Taylor. Et comme King et Taylor ont enregistré leurs albums respectifs dans le même studio, ils ont tous deux fait une version de la chanson. C'est toutefois la version de James Taylor qui a eu droit à un 45 tours et à un numéro 1 au palmarès.
Is this a lasting trail?